Hein? Il y a Monsieur Cocteau, hein, qui disait que être vieux, c'est avoir perdu ses rêves. Et Dieu est un Dieu qui intervient en élargissant nos cœurs, en nous donnant des rêves, en alimentant une vision, une capacité de voir avec notre cœur et de voir la réalité qui n'est pas toujours ce qu'on voit avec nos yeux physiques. Et ça, il le fait pour Abraham, il le fait pour chacun, et il veut le faire pour nous en ce début d'année. Il veut ouvrir nos cœurs, élargir nos cœurs, nous faire voir les choses, raviver une vision chez chacun, un regard de Dieu sur notre vie et sur ce qu'il a pour nous. Et j'aimerais maintenant aller dans un axe. On a eu donc vendredi soir et samedi, on s'est retrouvés au niveau de l'équipe des anciens. Et on a cherché le Seigneur, on a partagé ensemble. Et on pense qu'il y a deux versets qui sont un peu des versets phares pour cette année et que je vais un peu développer. C'est les versets de Deutéronome 11, versets 13 et 14. Alors, on a beaucoup hésité parce que beaucoup de versets disent plus ou moins la même chose autrement. Et versets 13 et 14, si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous donne aujourd'hui de la part de Dieu, si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre être, le Seigneur fera tomber la pluie sur vos terres au bon moment, en automne et au printemps. Alors vous aurez de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste appeler certains, c'est une petite surprise, hein, mais qui est dans le thème de ce qu'on veut faire. J'aimerais appeler donc ceux qui ont été dans les ateliers bibliques l'année passée, qui se sont investis. Je pense à Geneviève. Emmanuel, si tu peux me passer les. Ou un homme peut-être, Michel, le carton qui est là-bas sur la table. Donc il y a Geneviève, donc ça, Christophe qui va la représenter. Hein. Si elle n'est pas là, il y a Caroline. Caroline, je t'ai vue ce matin. Voilà, Caroline. Voilà, Jérémy. Voilà, Jérémy. Lydie. Est-ce que Lydie est là? Voilà, ben, si tu peux venir aussi. Est-ce que j'oublie quelqu'un qui s'est investi dans les ateliers bibliques? Aurélie. Oui, Franck, mais il n'est pas là. C'est lui qui me charge ce matin de faire ça. Est-ce qu'il y a Aurélie aussi, hein? Voilà. Donc non, un carton brun derrière avec plusieurs. Voilà. Voilà. Attends. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'aimerais faire la petite parenthèse que ce Gisélaire qu'on connaît bien et cette vision pour les enfants correspond vraiment assez bien à la vision que nous avons au niveau de l'Église, au niveau par exemple des enfants dans le culte et pas toujours à côté. Donc cette idée-là, elle est développée avec des moyens dans cet ouvrage. Et je proposerai à la future équipe qui se lèvera cette année, eh bien qu'on étudie ensemble ce livre pour une mise en pratique et pour alimenter la vision des enfants qui est vraiment très très bien véhiculée dans ce livre. Alors c'est un cadeau et c'est un cadeau intéressé aussi. Voilà, mais je crois qu'il faut toujours aller plus loin dans la vision. Donc c'est une semence. Donc revenons, voyez, si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous donne aujourd'hui de la part de Dieu, si vous aimez et servez le Seigneur, l'aimer d'abord, le servir après, de tout votre cœur, de tout votre être, le Seigneur fera tomber la pluie sur vos terres au bon moment. Et ensuite, il est parlé, vous aurez de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Le blé, le vin, l'huile, c'est Dieu. Hein? Ça nous parle de Dieu, de sa vie. Alors, le deuxième point, rappelez-vous aussi, on a parlé de vision, de rêve, et cet été, cette interpellation du Seigneur, que je partage avec d'autres responsables au niveau du pays, c'est cette vision d'université chrétienne pour la francophonie. Et je vous avais rappelé que lorsque j'avais été aux États-Unis, il y a des années en arrière, j'avais visité cette université Oral Roberts, cet ancien paysan. Et quand vous rentrez, vous avez dans le parking une immense statue qui représente des mains jointes, comme ça, à peu près 20-30 mètres de haut. Une énorme monument, quoi. Et derrière, une tour de prière 24 heures sur 24 et autour le campus universitaire. Et David Lee a été étudiant là-bas, il m'a appris. Et ça me parle, et c'est ce que j'aimerais partager ce matin, c'est le parallèle entre des visions que Dieu donne, qui sont de lui, qui viennent de lui, cet élargissement de notre imagination, de notre cœur, et en même temps, cette capacité de rentrer dans l'intimité de Dieu, la prière, de façon à ce que tout ce qu'il a prévu pour nous se réalise. C'est vraiment ça. Alors regardez, psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » On développe ce qui est dans le verset thème de l'année, ce côté « si vous vous attachez à Dieu, si vous vous attachez à moi, si vous m'aimez de tout votre cœur, alors je ferai tomber la pluie. » Cet attachement, il vient de là, de l'intimité avec Dieu. « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies, où ça ? Devant ta face. » Et devant ta face, ça nous parle du face-à-face, ça nous parle de l'intimité. Ésaïe 55:1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Psaume 36:9, auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, être attaché à Dieu, c'est être les amis de Dieu. C'est ça. Et je crois que cette parole qui a été donnée ce matin, Dieu qui nous chuchote, « Je suis là ». Il nous chuchote de la même façon, « Je suis ton ami. Je veux faire de toi mon ami. » Jacques, chapitre 2, verset 23. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez, il crut à Dieu, il n'a pas fait des choses pour Dieu, il a été l'ami de Dieu. Et c'est cette amitié dans laquelle Dieu nous attend. Avant tout projet, avant tout travail, avant tout ministère, il y a cette capacité des oreilles de notre cœur à entendre « Tu es mon ami, je suis avec toi, je suis là ». Aucune de nos actions, aussi bonnes soient-elles, si elles ne peut être bien fondée, si elle n'est pas fondée sur cette écoute de Dieu qui dit « Tu es mon ami ». Toute action, tout ministère est une réponse à l'amitié de Dieu. Et le ministère n'est pas là pour prouver cette amitié ou quelque chose à Dieu. Il est une réponse à l'amitié de Dieu. Donc, il est dit aussi dans Exode 33, 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. » Dieu, il aime, il a besoin d'amis. C'est assez mystérieux ça. Il a besoin de rien, on pourrait dire. Mais pourtant, dans la Bible, on voit qu'il recherche l'amitié. Et c'est pour ça qu'il parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cet appel de Josué, et ça nous résonne particulièrement pour nous, ce guerrier, cet homme qui a beaucoup agi pour Dieu dans la vie, il a commencé comme fondement de sa vie à être dans la tente et à ne pas s'en séparer. Alors que les autres avaient déjà quitté la tente de la rencontre avec Dieu, lui, il ne voulait pas quitter ça. Et c'est là, dans cette tente, que Dieu a formé le guerrier. Alors maintenant, il y a des temps, il y a des saisons. Il y a des saisons où Dieu nous dit « viens » et il y a des saisons où il nous dit « va ». Et dans la Bible, vous avez autant de commandements « viens à moi » que de commandements « allez en mon nom ». Il y a des saisons. Dans la journée, il y a des saisons. Dans la semaine, il y a des saisons. Dans l'année, il y a des saisons. Dans la vie, il y a des saisons. Et donc, par rapport au mandat de Josué, rappelons-nous que ce mandat n'était pas possible à atteindre, de prendre une terre sans avoir été dans la tente. Sans avoir été dans la tente. Et nos réunions de culte, nos réunions ensemble, seront d'autant plus fructueuses que nous aurons été dans la tente avant. Voyez. Et quand on arrive au culte, on arrive non pas pour être rempli, ce qui est légitime aussi parfois, mais on vient parce que ça déborde et on veut que ça déborde sur les autres. Et alors, on a aussi dans Job 29, 4, « Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente ?» Ça, c'est Job qui parle. Job, il parle de la tente où il se rappelle que Dieu était son ami aussi. Et l'épreuve de Job, elle a été terrible, mais elle a duré un court temps dans sa vie. Par rapport à sa vie, c'est rien. Mais l'épreuve a été terrible. Mais l'amitié de Dieu, le rappel de l'amitié de Dieu, le souvenir des bons temps passés avec Dieu l'ont fait tenir dans la marche. Ensuite, psaume 25, 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Donc l'alliance, c'est une relation d'amour durable, renouvelée. Et donc Dieu nous appelle à développer cette amitié. Jérémie 31, 3, « De loin l'Éternel se montre à moi. » Écoutez ce que Dieu lui dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Voilà, ça c'est à Jérémie. Voyez, ça ne veut pas dire que Jérémie, c'était facile ce qu'il a vécu. Quand il s'est retrouvé dans la prison, dans une citerne, c'était pas simple. Et pourtant, Dieu lui disait, « Voilà, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma beauté. » La relation vécue avec les disciples pendant 3 ans, c'était extraordinaire. Ils ont mangé, ils ont bu avec lui, ils ont guéri les malades avec lui. C'était une vie avec Jésus. Et c'est pourquoi, pendant ces années passées ensemble, Jésus les a appelés. Je ne vous appelle pas serviteurs, moi je vous appelle mes amis. Donc c'est le fondement, cette amitié. Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Cette amitié de Dieu, il l'a prouvée. Il l'a prouvé de son côté. Anne, tout à l'heure, me rappelait Éphésiens 5, c'est une parole aussi pour nous, où Dieu a tant aimé son Église qu'il a tout donné pour elle. Donc l'amitié pour nous, c'est une amitié au niveau collectif aussi, au niveau de son Église ensemble. Il l'a prouvé, cette amitié. Et donc, notre amitié, c'est une réponse à ce qu'il a fait, une réponse à ce qu'il est. Jean 15, versets 4 à 16. Alors là, c'est vraiment le cœur de ce message. On connaît bien ces paroles, j'aimerais les relire. Et si vous pouvez vous amuser à compter le nombre de fois qu'on voit un même verbe qui revient. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez pas non plus. » Vous ne le pouvez pas non plus. C'est clair, hein ? Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Donc si je ne me trompe pas, on a à peu près 13 fois ce terme demeurer, demeurer. Et je crois que c'est le pendant de la vision. Grande vision, demeurez en moi. Et les fruits, ça n'a pas été... Les fruits, vous greffez à la sève et le fruit vient tout seul. Vous n'êtes pas là, le pommier, il n'est pas là en train d'angoisser, en train de dire, mais bon sang, mais qu'est-ce que je vais pouvoir porter comme fruit? Est-ce que le fruit va être bon? Est-ce que la pomme, elle va être ronde? Est-ce que la pomme va être sucrée? Le pommier, il ne flippe pas. Le pommier, il est tranquille. La sève, elle monte, le tronc, il est là, toutes les pièces sont jointes, le fruit vient tout seul. Donc on va pas se creuser la tête en disant... C'est quoi mon ministère? On ne va pas se creuser la tête en disant « qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ?» On demeure en lui et les choses viennent et les fruits viennent. Et tout d'un coup, tu réalises que tu es un pommier et l'autre à côté de toi, ben, ce n'est pas les mêmes, c'est des pêches. Et l'autre, vous voyez, chacun c'est des fruits différents. Et c'est ça le secret, c'est de demeurer en lui, en tant qu'individu mais en tant qu'église aussi. Chercher sa présence, venir à lui. Dans les tabernacles que nous avons eus l'année passée, que nous aurons cette année encore, on recherche sa présence. Et dans sa présence, il se passe tellement, tellement de choses. Donc voilà, le demeurer qui est tellement important. Demeurer, ça veut dire s'attacher. Le verset de Deutéronome 11 qui dit « Si vous vous attachez à moi, j'enverrai la pluie sur le pays. Donc ce n'est pas seulement sur nous que Dieu enverra la pluie, mais sur le pays. Nous sommes dépendants de la terre dans laquelle nous vivons. Notre obéissance à nous a des répercussions sur notre entourage, notre pays, notre ville. Donc demeurer, s'attacher, c'est ça que ça veut dire, hein, de tout notre cœur. Comme le serment s'attache au cep pour avoir la vie, le disciple est attaché à Jésus. C'est tout simple, hein, je veux dire, ce matin c'est pas compliqué. Mais on veut revenir sur ces bases tellement importantes. Alors que les nations tremblent autour de nous, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous ébranler. Il y a beaucoup de nouvelles. Il y a plusieurs de l'Église qui m'ont envoyé un peu des choses alarmantes qu'ils reçoivent par des gens qui commencent à interpréter l'Apocalypse, à discerner les signes. Alors dans les Jeux Olympiques, on peut voir des signes, ça a commencé le 8-8-8, machin. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je peux vous dire, Dieu nous dit, utilise tes efforts, ton énergie à venir dans ma présence, à écouter ma voix, à recevoir de moi. Et ne crains pas. Et ça vient 350 fois dans la Bible, au moins. Ne crains pas. Un pour chaque jour. Hein. C'est bien fait, cette parole de Dieu. Un pour chaque jour. Donc, ne crains pas. Et je peux vous assurer que Dieu nous demande à porter du fruit. Alors, il nous demande d'être prêts. Et Jésus dit souvent de vivre comme s'il allait venir ce soir, et puis de travailler, de d'œuvrer pour Jésus comme s'il allait jamais revenir. Mais, attention, notre communion, c'est ça. Communion avec le Saint-Esprit. Et ça dépasse tout ce qui est moment de réunion collective ou autre. C'est une communion personnelle avec Dieu. Regardez, Exode 2, verset 12. Moïse, la grosse gaffe qu'il a faite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il regarda de côté et de l'autre. Je répète. Moïse regarda d'un côté et de l'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alors, quelle est la grosse gaffe qu'il a faite? C'est qu'il a oublié de regarder en haut. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il n'y a personne, je tue l'Égyptien. Mais il a oublié de regarder en haut. Et Dieu nous dit, arrête de regarder tout le temps à droite et à gauche et regarde à moi. Et ça, c'est demeurer en lui. Et on peut être troublé quand on est attaqué dans notre corps, comme a parlé Jocelyne, ou Christophe, ou attaqué comme Nadine, on peut être troublé. Et un peu comme Pierre, hein, qui il met le pied sur la mer, et puis il regarde la tempête, le vent, et puis il commence à couler. Dieu dit, regarde à moi, reste attaché à moi, demeurez en moi. Voilà. Alors, Ata El Roil, dans la Bible, ça veut dire l'éternel Dieu qui te voit. Et c'est ce qui manquait à Moïse, la conscience du regard de Dieu. Ce matin, Dieu nous disait, je te chuchote à l'oreille, je suis là. La conscience de la présence de Dieu, la conscience du regard de Dieu, la conscience de tout ce que Dieu a fait pour nous, l'amitié de Dieu. C'est cette conscience-là qui change nos vies et qui fait que nos priorités ne sont plus jamais les mêmes. Mais Moïse, là, il n'avait pas confiance. Il n'avait pas regardé en haut. Quand on ne regarde pas en haut, on fait des bêtises. N'importe qui. Hein. Donc Dieu dit, demeure en moi, demeure en moi. Alors, je donnerai le témoignage ici d'un ami, je ne cite pas son nom, c'est un ami pasteur, et je vous lis un peu son témoignage. Assez tôt dans ma vie de foi, j'ai cherché à passer du temps avec Dieu. Un temps pleinement consacré à lui, sans autre occupation. Nous avons appelé ça le culte personnel. Au fur et à mesure des années, j'ai augmenté mon temps de culte personnel. D'une demi-heure, c'est passé à une heure, puis quelques temps plus tard, une heure et demie, quelques années après, deux heures, puis trois heures. Quand mon culte personnel durait trois heures d'affilée chaque jour, c'était vraiment un marathon. Cela a continué pendant des années. Chaque matin, en me levant, je me disais que j'en avais pour trois heures. Et si parfois les délices de la révélation venaient couronner ces moments de recherche de Dieu, bien souvent, pendant plus de deux heures, c'était dur, dur. Et puis le moment finissait et j'entrais dans bien des activités. Je trouvais qu'elles me faisaient perdre tout le bienfait que j'avais retiré de ces moments spirituels. Mais c'était ainsi, le travail, les factures, les enfants, les désaccords, les craintes, les projets, les budgets, puis la détente ou un moment de distraction pour éliminer le stress de tout ça. Et le lendemain, il fallait recommencer. J'en ai pour trois heures à me recentrer sur le Christ, être réparé des difficultés de la veille, me préparer au travail du jour, me repentir de mes écarts, de caractère, de distraction. Alors je cheminais dans ma recherche de Dieu, puis un jour, j'ai eu une révélation du texte suivant. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je me suis imaginé, mon fils Jérémie, qui avait 6 ans à ce moment-là, il avait pour meilleur ami un garçon de son âge, appelé Jean-Baptiste. Et je lui ai dit, Jérémie, que penserais-tu si tu allais voir Jean-Baptiste chaque jour le matin pour lui dire, Jean-Baptiste, tu es mon meilleur ami, je vais passer une bonne journée avec toi, tu vas m'accompagner tout ce jour, c'est super pour moi de t'avoir à mes côtés, tu comptes beaucoup pour moi, on va bien rire ensemble, jouer ensemble. Et puis toute la journée, tu ne lui parles pas, et quand il te fait signe pour jouer avec lui, tu ne réponds pas. Quand il te voit pleurer et qu'il veut t'aider, tu l'ignores. Et le soir, après l'avoir ignoré, toute la journée, tu lui dis, Jean-Baptiste, merci pour cette journée que l'on a passée ensemble. Tu es mon meilleur ami. Je sais que tu étais avec moi tout le long du jour, mais quand je me sentais un peu seul, quand j'étais à talc à l'école, quand je n'ai pas su faire mes devoirs, merci de m'avoir aidé à comprendre. Alors Jean-Baptiste te dirait, Jérémie, tu débloques. J'ai voulu t'aider. J'ai voulu parler avec toi, mais tu ne m'as pas regardé, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as même pas adressé la parole. Et pourtant, tu as dit des paroles, des tas de paroles à plein de gens en plus. Mais moi, que tu appelles ton meilleur ami, tu ne me parles pas. Tu ne me regardes pas, tu ne m'écoutes pas. Et tous les matins, tu me demandes de t'accompagner. Tous les soirs, tu me remercies de l'avoir fait alors que nous n'avons rien pu faire ensemble. Alors Jérémie a ri en disant que c'était impossible de se comporter ainsi avec son meilleur ami. Alors je lui ai dit, tu vois, c'est pourtant ce que beaucoup d'entre nous faisons avec Jésus, notre meilleur ami. Et quand je partageais, je continue le témoignage, hein, quand je partageais avec les autres sur leur vie de prière, souvent cette question revenait. Combien tu passes de temps avec le Seigneur ? Et j'étais assez content de pouvoir dire que je prenais 3 heures par jour à chercher Dieu. Mais à partir de ce moment, une autre question est née dans mon cœur. Combien passes-tu de temps sans le Seigneur dans la journée ? Et vous savez, passer 3 heures avec Jésus pour l'ignorer 21 heures n'est pas une démonstration de piété. J'ai essayé de prier 3 fois par jour pour vivre davantage dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que la répartition de ces moments devant Dieu m'a fait du bien, m'a permis de moins me distancer du Seigneur, cherchant comment demeurer en lui, car je savais que là, les prières sont exaucées, que la vie véritable coule en nous. J'ai interrogé un certain nombre de personnes, élu des livres intéressants, et la question « Combien de temps passes-tu avec le Seigneur ?» est devenue une question plus profonde encore. Combien de temps passes-tu sans le Seigneur ? Et cette nouvelle question est devenue de la préoccupation majeure dans mes pensées et m'a amené à considérer autrement ma manière de me brancher sur la vie. Psaume 91, 3, 1, 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Un célèbre homme de foi, un des plus grands du siècle dernier, du début du siècle dernier, qui s'appelait Smith Wigglesworth, il disait ceci, cette phrase, « Je ne prie jamais plus d'une demi-heure. » Alors vous allez dire, « Oh, c'est cool, attendez, mais je ne passe jamais une demi-heure sans prier. » Voilà, donc ça c'est cette communion avec le Saint-Esprit, cette communion que Dieu vous nous avait à développer. Vous voyez, cette communion pendant la marche, cette communion pendant notre vie de tous les jours. Et ça c'est le défi. Voyez. Alors, c'est bien les mises à part, mais attention, si le prix à payer, c'est que en dehors de la mise à part, on est submergé dans tout ce qu'on fait. Donc, apprenons à marcher avec Dieu. Psaume 91, verset 2, hein, je rappelle, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. » Regardez, 3 choses dans ce verset. Demeurer à l'abri, se reposer à son ombre. 3e chose, lui dire des paroles de confiance et d'amour. Et ça, c'est le psalmiste David qui nous donne le secret d'une vie d'adoration. Et ça commence par demeurer. Psaume 91, verset 3 et suivant, « C'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur, de la peste de ses ravages, et te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, etc. » Donc voyez, l'abri du Très-Haut, la forteresse de Dieu, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et j'aimerais juste donner une autre citation d'un homme qui est moins connu, qui s'appelle Frank Laubach, 20e siècle, il disait ceci, garder le Seigneur présent dans ma pensée transforme ma vie en paradis. La joie que j'ai est indescriptible. Ça, c'est un homme qui a cherché Dieu pendant longtemps dans sa vie et qui l'a trouvé et qui a vécu de longues années dans sa vie avec une joie indescriptible. Un homme, un catholique, disait ceci, « Une âme qui possède le Saint-Esprit goûte une exquise saveur toute la journée. Elle ne perd jamais la présence de Dieu. Hein » Voilà. Frère Laurent, Thésée, un groupe de Thésée, je crois, je peux me tromper. « Vous avez besoin de vous accoutumer à une conversation continuelle avec lui. Une conversation simple, libre. Reconnaissez que Dieu est intimement présent avec vous et adressez-vous à lui chaque moment. » Voilà. Et le psaume 45:1, ce qu'on a cité la semaine dernière, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis à mon Dieu, eh bien, mon œuvre, elle est pour toi. On veut œuvrer aujourd'hui, cette année. Il y a des œuvres devant nous. Il y a des œuvres préparées d'avance. Il y a un travail pour chacun. Il y a des ministères au milieu de nous. Mais avant l'œuvre, Dieu dit, est-ce que ton cœur bouillonne de cette amitié que je te donne? Est-ce que des paroles pleines de charme s'élèvent vers Dieu, vers moi? Eh bien, si ce n'est pas le cas, que ça commence. Commence à laisser ton cœur être imbibé de cet amour. Parce que Jésus nous a aimés le premier, il ne faut pas l'oublier. 1 Jean chapitre 4 verset 19, nous aimons Dieu pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pour ça. Donc laissons-nous aimer. Je rappelle un frère un jour, il nous disait, est-ce que prends 5 minutes dans la journée, tu t'assois sur un fauteuil, tu ne pries pas et tu te laisses aimer par Dieu. Tu dis simplement, viens Seigneur, fais-moi du bien. Simplement. Je peux vous assurer, c'est pas évident. La première minute, elle est longue. Mais laissons-nous aimer, laissons-nous remplir dans notre cœur. Écoutez ça, la passion pour Jésus est le fruit de notre reconnaissance de son dévouement à lui pour nous, hein, et non le résultat du nôtre pour lui. Il y a des gens qui pensent que la passion pour lui, c'est notre dévouement pour lui. Mais non, ça, rien compris. C'est pas ton dévouement pour lui, c'est son dévouement pour toi qui te fait bouger. Et du coup, tu ne regardes plus à ton dévouement à toi, tu regardes à son dévouement à lui. Et ça change toute ta vie. Alors, regardez, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. « Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. » Et donc, c'est Mike Bickle qui dit ceci. L'ordre dans lequel est exprimée cette prière, nous sommes tout d'abord attirés vers lui, dans l'intimité. Et puis ensuite, nous courons avec lui dans le ministère. Donc d'abord, attirer avec lui. Hein. Entraîne-moi derrière toi. Et Dieu nous appelle, entraîne-moi, viens à ma suite. Et ensuite, courons ensemble. Voyez. Alors, je cite encore, si nous voulons devenir les collaborateurs avec Christ, courir avec lui, il nous faudra d'abord nous concentrer sur le fait d'être attirés comme adorateurs, consacrés dans la pureté avec une passion affectueuse. Je suis convaincu, je cite Mike Bickle, que l'Église mûrira dans cette tension délicate entre être attiré et courir. Alors peut-être qu'au milieu de nous, il y a les coureurs. Les coureurs. Et Dieu leur dit, écoute, laisse-toi attirer par moi. C'est bien ta course, c'est bien, mais laisse-toi attirer par moi. C'est bien Marthe, mais fais un peu la Marie de temps en temps. Mais il ne reproche pas à Marthe. Hein. Et ensuite, il y a les maris qui ne courent pas. Et c'est simplement l'attachement à Dieu. Et Dieu lui dit, c'est bien ton attachement, mais maintenant viens, courons ensemble. Et c'est cette tension dans l'Église qu'on va vivre cette année, être attiré à lui et courir avec lui. Le rythme risquera d'être peut-être plus grand, mais rappelez-vous ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, moi j'ai vu la retransmission après, mais le coureur c'était quoi, 200 mètres, non? C'était le 100 mètres. Le gars, il pulvérise tous les records, très cool, à la fin, il se permet de se retourner, il les a pulvérisés derrière lui, on sentait pas de fatigue, pas d'essoufflement, à l'aise. Et je crois que la course avec Dieu, c'est ça. Et si on court et qu'on est épuisé, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Donc moi, notre défi cette année, Deutéronome 11, verset 13, 14, être attaché à lui, s'attacher à lui, observer ses commandements, parce que quand on ne les observe pas, je peux vous dire, ça fatigue. Vous savez que le péché, ça fatigue. Le péché, c'est très fatigant. Ah oui, et c'est un Méditerranéen qui vous le dit, c'est fatigant. Parce que il y a la culpabilité, ensuite, vous luttez contre ça, c'est fatigant, c'est fatigant. Et Dieu nous dit, écoute, arrête, ça, tu vas te crever comme ça. Et la tension de, ensuite on revient vers Dieu et on retombe et on revient, c'est crevant ça. Dieu dit, observe mes commandements, sois attaché à moi et cours avec moi. Alors c'est comme ça qu'on va apprendre à guérir les autres, à courir à partir de ce socle d'un cœur bouillant et d'une intimité avec Dieu. Le fait est ces deux prières, Seigneur, je me laisse attirer à toi, Seigneur, je cours avec toi, si vous remarquez bien, ça répond exactement aux deux grands commandements de la Bible. Le premier, aimer ton Dieu de tout ton cœur. Donc Seigneur, attire-moi à toi. Le second, aime ton prochain comme toi-même. Et toutes les œuvres sociales de miséricorde, le collège Daniel, l'éducation, tout ça, c'est aimer notre prochain. Donc vous voyez, aime Dieu, laisse-toi attirer par lui, intimité de sa présence, et cours avec moi le ministère et la patience et l'amour pour les autres. Et comme ça, on accomplit les deux grands commandements. Et tout ce qu'on fait est scellé dans ces deux commandements. Alors, voilà, je prie que le Seigneur nous aide à déjà bien méditer par rapport à ce verset Deutéronome 11, 13 et 14, parce qu'il y a du blé, du vin et de l'huile que Dieu veut répandre au milieu de nous. Je crois vraiment. Alors merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton interpellation d'être attiré à toi. Tu veux nous attirer près de ton cœur. Tu veux chuchoter aux oreilles de nos cœurs que tu es là, que tu nous aimes, que nous sommes tes amis. Alléluia. Alléluia. De la part du Seigneur, vraiment, tu es son ami. Et même Pierre qui avait renié le Seigneur trois fois, Dieu lui a dit, tu es mon ami, paie mes agneaux, occupe-toi de mon œuvre. Seigneur, merci pour cette amitié. Et je te prie que cette année, nous puissions rester demeurés en toi, toute l'Église, Seigneur. Que les fardeaux puissent être laissés, et que l'intimité de ta présence nous rafraîchisse, et que nous puissions courir comme jamais on a couru, Seigneur. Non pas avec nos forces, mais avec la puissance de ton esprit. Merci, Jésus. Alors aide-nous, Seigneur, dans cette tension entre être en toi et courir avec toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.